Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous.
Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. Cette semaine, ça me fait plaisir de vous présenter une autre invitée que vous connaissez peut-être, mais que sûrement plusieurs personnes ne connaissent pas encore, bien que les circonstances font que son nom circule un peu, surtout dans le milieu des personnes handicapées visuelles. Il s'agit, parce que si je continue comme ça, je vais continuer longtemps, je vais autant la saluer et la laisser parler, ça va être, je crois, plus intéressant et plus instructif. Mon invité aujourd'hui est Camille Saint-Laurent. Tout d'abord, bonjour Camille.
Bonjour.
Donc, toi, comme je le disais, ton nom circule sûrement un peu parce que tu es candidate pour Québec solidaire. Et en plus, la politique, bon, c'est un domaine qui t'intéresse depuis longtemps. Donc, c'est sûr qu'on peut difficilement sortir la politique de la fille, mais il y a aussi autre chose que tu veux nous faire découvrir, tes passions et tout et tout. Puis, on aimerait ça te connaître, comme j'aime le dire, du début. Donc, si tu veux nous parler de toi un peu, du lieu de ta naissance, de comment ça s'est passé au tout début, on t'écouterait volontiers.
Bon, pour commencer, j'ai 23 ans.
Donc, hey, toute jeune hein, quand même, hein, dans les jeunes invités que j'ai reçus.
Oui, effectivement. Alors, je suis née à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Déjà, ça part... Il y avait déjà une mauvaise augure. Sur ma naissance, en fait, parce que à la myosynthèse, ma mère, elle a appris que j'avais des problèmes cardiaques. Alors, j'ai eu une légère hypoplasie de la ventricule gauche, donc communément appelée le trou au cœur.
Alors, c'était peurant un peu quand même comme nom, là.
Ouais, effectivement. En fait, c'est ça. Donc, j'ai eu une première opération. Et à ma deuxième opération, on m'a installé un cathéter contaminé. Alors, j'ai eu un endocardite, donc une bactérie qui s'est logée à mon cœur. Alors, à ce moment-là, j'avais 10% de vie. Donc, mais je suis miraculeusement là.
10% de chance de rester en vie?
Oui, effectivement.
Okay. Oh boy, OK. C'est
à cause de la bactérie, en fait, c'est un cathéter contaminé.
Ouais, c'est ça, c'est la bactérie qui s'est transmise par le cathéter, puis ça t'a mis quasiment au seuil de la mort, là.
Oui, effectivement, c'est sûr que j'étais tout petite. On a dû me gaver, justement, jusqu'à l'âge de 2-3 ans pour que je grossisse, parce que je pesais même pas 10 livres à un an.
Oh là là, OK. Donc, très, très petite.
Effectivement.
L'avantage, comme j'aime des fois le dire, c'est que, bon, à cet âge-là, tu devais pas t'en souvenir, au moins.
Non, c'est ma mère qui me l'a
dit. Tu t'as tout raconté ça.
Oui. Alors, justement, à un moment donné, ma mère a trouvé que j'avais un regard bizarre. Alors, on a fait des tests et on a vu que j'avais les cataractes congénitales. Alors, je suis née avec des cataractes. On me les a enlevées. Et étant donné que j'étais bébé, on n'a pas pu mettre de prothèse. Donc, on a enlevé mes cristallins, mais j'ai pas de prothèse pour pallier les cristallins, en fait. Et les docteurs avaient dit à ma mère, si à l'âge de 2 ans, qu'elle ne commence pas à faire du glaucome, elle n'en fera pas. Mais à l'âge de 2 ans, jour pour jour, j'ai commencé à faire du glaucome.
2 ans, jour pour jour, hey! Au moment où ce que vous pensiez tirer d'affaire, ça,
mais oui.
Ça a commencé.
Ça, c'est ma chance. Alors, alors j'ai été semi-voyante longtemps, j'avais des aides comme télévisionneuse, etc. Mais je voyais pas plus de 10 pieds, à peu près aux 20 pieds en avant de moi. Et j'avais quand même un champ visuel un peu de périphérie, du bas et du haut un peu réduit. Mais j'étais capable de lire les imprimés normales. J'étais capable de... J'avais pas besoin de canne blanche, rien. J'étais capable de bien fonctionner malgré tout. Et...
Est-ce que toi, est-ce que quand t'étais jeune, avant l'école, est-ce que tu... Bon, donc, tu fonctionnais, tu t'amusais,
tu
avais des camarades, j'imagine, puis c'est-tu plus comme à l'école que t'as commencé peut-être à réaliser qu'est-ce qui se passait, ou...
Ben, je pense que j'ai toujours su que j'avais la difficulté à voir quand même, parce que... Mais c'est sûr qu'à peu près vers la maternelle, pré-maternelle, maternelle, parce qu'avant la maternelle, ma mère, elle avait tellement peur que je sois en retard, comparativement aux autres en première année. Alors, elle a voulu que j'apprenne à lire et à écrire avant tout le monde.
Prendre l'avance.
Là. Oui, effectivement, okay. Que je prenne l'avance. Alors, j'ai appris à lire avant tout le monde, à écrire aussi. Et c'est pour ça aussi que quand j'ai commencé la première année, ça s'est très bien déroulé, en fait. Et j'avais beaucoup d'aide aussi. J'avais une professeure itinérante qui venait à mon école, parce que moi, je suis originaire de Granby. Donc, je suis pas originaire de Montréal.
C'est ça, tu es née à Sainte-Justine, mais tu...
J'habitais à Granby.
C'est ça. Donc, t'allais à l'école à Granby, c'est logique.
C'est ça, ok, bon.
Alors... Ben, en tout cas, je dis c'est logique.
Oui. C'est ça, donc ma professeure étudiante, elle venait aussi pour conscientiser les élèves à mes difficultés visuelles. Donc, à chaque début de rentrée, elle venait pour parler de mon handicap. Et au cours d'éducation physique, elle leur faisait mettre des lunettes qui avaient sensiblement ma vision pour que les élèves soient
OK, pour essayer de voir un peu comme toi tu oui. voyais, là. Puis est-ce que toi, parce que les enfants, on sait, bon, c'est curieux, puis ça peut être méchant aussi. Ouais. C'est important qu'ils soient conscientisés, qu'ils soient... c'est ça, hein?
Oui, c'est de la sensibilisation.
Sensibilisation.
Et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, en fait. C'est une très bonne idée, malgré que j'ai vécu beaucoup d'intimidation. Ça a sûrement quand même déjà aidé les enfants, malgré tout. Et,
tu parlais de l'éducation physique? Toi, tu faisais pas d'éducation physique?
Oui, oui.
Ah oui, t'as fait de l'éducation physique. Mm-hmm. OK.
J'avais des ballons avec des petits grelots.
Oui.
Mais oui, je faisais des choses. En fait, moi, je me limitais pas. Ma mère a jamais voulu me mettre de barrière. Alors, je faisais tout comme tout le monde. Je faisais mes cours d'éducation physique. Je faisais des sports collectifs. C'est sûr que j'allais souvent à l'infirmerie à cause que j'avais le ballon sur la figure. Mais je m'entêtais à vouloir faire comme tout le monde. Alors, j'ai le prix à payer, je pense.
Mais ta mère qui avait peur que tu prennes du retard académique, mais mm-hmm. ne t'a pas protégé, devait quand même avoir peur quand tu dis, en plus, je devais souvent aller à l'infirmerie. Ça devait pas être évident pour elle de dire.
Ben, c'est sûr. Ben, c'est pour ça qu'on, les élèves devaient faire attention et tout. Et quand les sports étaient trop de contact, trop difficiles, mais je pouvais m'asseoir sur le banc, m'occuper du pointage, en fait.
T'occuper autrement,
oui.
Pour être quand même inclus dans le cours, mais sans risquer, là, de manger mm-hmm. les coups.
Mais au primaire, j'ai vraiment fait l'éducation physique comme les autres. C'est vraiment au secondaire qu'on a essayé de trouver des alternatives. C'est sûr que les adolescents, ils ont une force un peu plus, une plus grande force et tout, donc ça pouvait être aussi plus dangereux.
Et comment t'as perçu ça au secondaire en général? Parce que bon, il y a l'aspect là, académique. Toi, tu t'avais des loupes, je crois, mais t'avais pas t'as pas appris le braille, t'as pas...
Non.
Et c'était comment, admettons, moi j'avais une bête noire au secondaire là qui s'appelait la géographie. Toi, pour toi, admettons,
moi, ça a toujours été les mathématiques. Je
ouais,
sais
ben,
qu'il y a beaucoup
ça,
de gens qui ont...
Ça pouvait venir assez compliqué rapidement, les mathématiques, là.
Oui, mais dès le primaire, j'avais de la difficulté en mathématiques et
okay.
On avait trouvé une personne, je me rappelle, elle s'appelait Liette. je la salue. Mais mais cette personne-là s'occupait du service de garde et on l'a attitré à moi. Donc parfois des fois elle me sortait des classes pour travailler avec moi mes mathématiques pour justement que je réussisse mes mathématiques malgré tout.
Comme des espèces de cours de...
Oui, un peu des cours particuliers, un peu comme quand les orthopédagogues venaient chercher parfois les élèves au primaire en retrait pour les élèves qui avaient de la difficulté d'apprentissage. Donc moi, c'est un peu le même principe, mais pour mes cours de mathématiques. Alors, elle m'a beaucoup aidée. C'est un peu grâce à elle que je réussissais mes cours de mathématiques à chaque année.
OK. Donc, ça t'a demandé aussi quand même plus d'efforts, plus de persévérance.
Oui, c'est ça.
OK. Et là, je passe vite, mais si jamais tu trouves que je vais trop vite, tu me le dis. Mais quand t'arrives le secondaire, plus particulièrement secondaire 4, secondaire 5, mm-hmm. on se met à penser à ce qu'on veut faire plus tard, si on veut aller au cégep. Mm-hmm. Pour toi, c'était quoi? Comment que ça s'est passé, cette période-là? Est-ce que tu avais une idée?
Mais moi, j'ai toujours voulu aller dans la relation d'aide.
OK.
J'avais pas de métier en particulier, mais je sais que je voulais aller en relation d'aide.
OK.
Mais c'est vrai qu'on a peut-être sauté des petits bouts.
Oui, ben, revenons-y.
Parce que au primaire, en fait, comme j'avais dit, j'avais beaucoup vécu d'intimidation au primaire. J'avais des amis, mais souvent, c'était des personnes qui étaient un peu hypocrites. Et,
oh, OK.
Ouais. J'étais un peu hypocrite, donc j'ai beaucoup avec mes sentiments et j'ai beaucoup vécu d'intimidation à côté-là, beaucoup de rejet aussi au primaire, et ça s'est pas amélioré au secondaire, soit dit en passant. En sixième année, j'ai une anecdote en fait, mais en sixième année, j'ai passé une émission à Canal V qui s'appelait « Si un rêve m'était compté ». Et c'était, en fait, le but de cette émission-là, c'était que les enfants pouvaient réaliser leurs rêves. Et quand ils sont venus à l'école, je peux vous dire que tout le monde voulait être mon ami.
Ouais.
Et j'ai vraiment vécu ça, vraiment comme devant les caméras. Ah, Camille, c'est ma meilleure amie, je joue avec elle tout le temps. J'ai vraiment vécu ça comme ouais, c'est, on dirait que quand on a de la popularité ou qu'il arrive quelque chose, là, tout le monde veut être avec toi. Et ça m'a vraiment rentré dedans.
C'est là que tu peux parler d'hypocrisie, là. C'est que ouais, vraiment,
effectivement.
Là, les gens en ont comme fait la preuve sans le savoir, mais de dire ah oui Camille, oh oui on joue avec elle, puis alors que c'était très différent. Là, de...
Mais c'est ça.
Et là tu dis qu'au secondaire ça s'est pas amélioré, mais est-ce que...
Mais en fait au secondaire j'étais quand même. Au secondaire, j'étais quand même introvertie. Je lisais souvent mes livres en classe, dans les pauses. J'allais pas vraiment vers les gens. J'étais pas solitaire, j'étais sociable, mais on dirait que j'avais peur d'aller vers les gens à cause du primaire. J'avais peur de me faire rejeter. Alors, le fait que j'allais pas vers les gens, mais ça n'a pas vraiment aidé.
Parce qu'on se comptera pas de mensonges. Les gens le savent, là, pour la plupart. C'est sûr que c'est plus difficile de faire des contacts. Les gens vont moins venir vers nous.
T'sais. Si on va pas vers les gens, effectivement, faut aller vers les gens. Vraiment, faut pas avoir peur. Mais moi, à ce moment-là, j'avais peur.
C'est ça.
Mes amis me suivaient pas parce que eux, ils allaient à une école privée. Et moi, cette école privée-là, je la nommerai pas parce que, en tout cas, je la nommerai pas.
Non.
Mais cette école privée-là avait dit à ma mère qu'il me voulait pas parce qu'il voulait pas débourser de sous pour mes adaptations. Et c'était l'école privée que mon frère fréquentait, que beaucoup de membres de ma famille ont fréquenté.
Et là, je vais juste ouvrir une parenthèse, oui. Là. C'est que là, on est dans les années 2000, là. À ce moment-là, fin 90-2000.
Oui, c'est ça.
On, c'est plus dans les années 50, 60, 70, là. Ça fait pas si longtemps de ça.
Non, c'était des frères, en plus.
C'était des frères, en plus. Et qui ont fait quand même de la discrimination, oui. Là, pure et simple, sans se cacher, là. C'est quand même assez aberrant.
C'est effectivement, oui, c'est très aberrant. Après ça, ben, je me suis dit, bon, j'allais à une autre école privée, mais elle a fermé quand j'ai rentré au secondaire. Alors finalement, je suis allée à une école publique, mais je fais le programme international.
OK.
Qui m'a beaucoup aidée. Pour ceux et celles qui connaissent pas le programme international, en fait, c'est un programme dans lequel on a des matières enrichies. Ils veulent former, en fait, les élèves à être à, un peu dans la société, à être de bons citoyens. Alors, il y a beaucoup de... faut faire du bénévolat, il y a beaucoup, beaucoup d'activités en parallèle des matières académiques. Beaucoup de voyages aussi.
Ah, ben ça, c'est quand même intéressant aussi pour ceux qui... que ça intéresse.
Oui, c'est ça. Il y a un examen d'entrée pour le programme international.
OK.
Alors, c'est ça. Donc, c'est ça que j'ai fait.
Ça, ça n'a pas été un problème pour toi, là, l'examen d'entrée,
non, t'admise. Ça a pas été... oui, j'ai été admise. Ça a bien... J'ai pas pu faire mon examen d'anglais parce qu'on n'a pas... Je pense qu'on n'a pas adapté ou qu'il y avait un problème qui faisait que j'ai pas pu faire mon examen d'anglais. Alors, étant donné qu'en sixième année, j'avais fait le programme anglais enrichi qui était la moitié de l'année en anglais, la moitié de l'année en français... Et on m'avait tout de suite mis en anglais enrichi.
Sachant que tu allais être capable de te...
Ouais, c'est ça.
De te débrouiller, là, amplement.
C'est
là.
Ça.
OK. Et là, bon, programme enrichi, programme international, tout ça. Est-ce que ça nous mène un peu maintenant au, à ce que tu voulais faire plus tard? Est-ce que ça t'a aidé là-dedans aussi?
Ben oui, c'est sûr que j'ai découvert, j'ai découvert, en fait, mon intérêt à aider les gens. C'est pour ça que je me suis dirigée au cégep, en éducation spécialisée.
OK. Toujours à Granby?
Oui, toujours okay. À Granby. Donc, c'est ça. Le cégep, j'ai fait l'éducation spécialisée, mais revenons au programme international. Excusez-moi. Mais c'est le programme international, ça m'a beaucoup aidée, en fait, pour me préparer au cégep. Ça m'a vraiment aidé à m'organiser. J'étais déjà organisée, mais ça m'a vraiment aidé cette optique-là, en fait. Et aussi, ben c'est sûr qu'au secondaire, comme j'ai dit, j'ai aussi vécu de l'intimidation. Fait que quand on revient au fait que j'allais pas vers les gens, mais c'est qu'au programme international, c'est des groupes qui se suivent toujours et que si tu vas pas vers les gens en première, secondaire, c'est difficile après de se faire un cercle d'amis dans les autres années. Je sais pas si vous comprenez.
Oui, oui, puis en plus, ben.
C'est ça. Alors,
si vous vous suivez toujours, puis que t'es toujours dans ton coin, ben là, c'est sûr que les gens sont jamais amenés à te parler non plus.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'avais, la majorité de mes amis, c'était les étudiants, en fait, de la France. Ben, les nouveaux arrivants, en fait.
Okay.
Du local de francisation, de mon école, donc je m'occupais du local de francisation les midis et c'est ça, c'est aussi ça qui a fait que j'ai voulu aider les gens. Alors en éducation spécialisée, c'était vraiment bien.
Parce que c'est ça, il fallait quand même pour souhaiter aller en éducation spécialisée qui est comme un déblocage un peu à ce niveau-là. Là,
de oui, dire, bon, mais là... je pense qu'avec la... rendu en 4e, 5e secondaire, c'est sûr que j'ai vieilli et j'ai appris aussi vers la fin du secondaire, j'ai réussi à me faire un peu plus d'amis au programme international, mais c'est sûr que c'était pas les meilleurs, mais côté académique oui, côté social c'était pas les meilleures années de ma vie maintenant.
OK. Ça a été quand même difficile là, tu sais pas.
Ouais, c'est ça.
OK. Ça l'a pas répondu à tes attentes socialement parlant, là.
Ouais, c'est ça, okay. Mais c'est ça.
Excusez-moi. C'est bon. Non, non.
C'est ça.
Non, mais ça
arrive. Ça m'arrive des fois de me répéter.
C'est pas toi, tu sais, c'est vraiment pas tout le monde, même, je pense, sans handicap, là, qui traverse tout ça sans embûche, puis en disant, ah oui, je suis contente ou content de toutes ces années-là. Là.
C'est sûr.
Et là, éducation spécialisée au cégep. On dirait que je suis pressée d'arriver au cégep.
Mais oui, il n'y a pas de problème. On va au cégep.
Mais je pense que ça a dû être quand même mieux. Ça a dû être plus intéressant, socialement.
Mais oui, bien sûr.
Voilà.
Oui, oui, je me suis fait des amis. J'avais aussi mes amis d'enfance que je voyais. Il n'y avait pas de problème à ce point-là, en fait.
Ben, il y en a qui ont comme résisté autant, là, puis qui sont restés dans ton entourage.
Oui, oui.
OK.
Mes amis d'enfance. Et je me suis fait des nouveaux amis au cégep aussi dans mon programme.
OK.
En fait, j'ai toujours voulu faire le DECBAC parce que je voulais aller en psychoéducation. Et le DECBAC, c'est qu'après l'éducation spécialisée, la technique de 3 ans, on fait uniquement 2 ans de bac à l'université au lieu de 3.
Étant donné que vous avez déjà fait 3 ans de...
C'est ça.
Puis qu'il y a déjà beaucoup de choses, j'imagine, qui se...
Mm-hmm.
OK.
Alors, c'est là où je voulais m'enligner jusqu'à l'été 2014.
OK.
En fait, fin de l'été
2014. Et là, il est arrivé sûrement un problème pour que ça les oui, plans changent.
Oui, en fait, j'ai eu des décollements de rétine.
Bon, les yeux qui ont recommencé
à faire des siennes. Et cette anecdote, j'allais presque cesser ma médication pour le glaucome parce que tout était stable et tout allait bien. Jusqu'à ce que, c'est ça, les rétines de mon œil droit décident de lâcher.
OK.
Et alors, j'ai fait une opération. À la fin de cette opération-là, une semaine après, l'œil gauche a décidé également d'avoir
la rétine.
Ouais, c'est ça. De suivre. Il était jaloux de mon œil droit.
Bon.
Alors, il a voulu suivre. Alors, j'ai eu au total 6 opérations. Mais 5 opérations, mais il y en a une que j'ai eu les 2 yeux en même temps. Qu'on m'a fait les 2 yeux en même temps.
Ah, les 2 yeux en même temps?
Oui.
Hey, Seigneur, ça doit pas être évident.
Ça, parce quand même. Parce que ma rétine, en fait, qu'est-ce que les docteurs m'ont dit, c'est qu'étant donné que je suis jeune, je cicatrise trop rapidement, alors la rétine a à peine le temps de coller qu'elle décolle tout de suite. Alors, c'est pour ça que j'ai dû me réopérer, parce qu'elle collait, mais elle
collait pas. Elle décollait aussitôt.
Les médecins, j'ai compris, les médecins qui voulaient vraiment que la rétine soit collée et tout. Sauf que, rendu à la dernière opération, mes yeux étaient déjà fatigués, alors ça allait vraiment abîmer mes yeux. Et mes yeux produisent plus de liquide oculaire, donc sont cliniquement morts. Alors, mes rétines sont finalement collées, mais ma vision est perdue.
Puis en plus de tous les désagréments que...
Ouais, c'est ça. Avec tous les désagréments, alors ça a été assez radical, ma perte de vision.
Ben oui, en effet. Parce que là, ça l'a forcément... t'as perdu ce qui te restait ou... T'en reste encore, il te reste plus du tout de vision? Ou...
Non, il me reste plus de vision. Je vois un petit peu de luminosité, mais presque pas. Je vois pas de mouvement ni d'ombre.
Et là, c'est suite à 2014, là, quand
oui.
tout.
Étant donné que mes yeux sont morts, donc ils produisent plus de liquide oculaire, comme j'ai expliqué,
mm-hmm.
Alors ma cornée, elle devient opaque.
Okay.
Alors ça fait en sorte que c'est pour ça aussi que j'ai perdu la vision.
OK. Mais là, 2014, 2010, là, maintenant, on est en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça t'a pris un temps pour t'en remettre, un temps pour te trouver un plan B, un plan
ben,
pour...
Ben, c'est ça, j'ai dû quitter le cégep.
Uh-huh.
J'ai pas pu terminer mon éducation spécialisée, étant donné qu'il me restait un stage à faire. Et j'avais déjà fait un stage par le passé, étant donné que j'étais semi-voyante. J'ai vécu beaucoup de discrimination par rapport à ça, étant donné qu'on me limitait dans mon type de clientèle que je pouvais faire.
Ouais.
Et on s'entend que j'étais semi-voyante, mais je voyais quand même très bien. Donc, il n'y avait pas de raison à me limiter dans la clientèle.
Eux autres, à partir du moment où ce qu'ils entendaient, problème de vision, ouais. Peu importe, là, c'était... on met des barrières. Puis...
Oui, on est du genre à me dire, « Ah, vous étiez la meilleure entrevue, mais à cause de votre
vision, c'est sûr.
Vous comprendre. » Alors, il me restait un stage final à faire, alors c'est pour ça que je me suis dit, je veux pas rentrer là-dedans. Déjà que j'ai perdu la vision, là, je suis complètement non-voyante, donc je me suis dit, ça va être encore pire. Alors, j'ai fait un DEC sans mention, qu'on appelle, donc j'ai fini mes cours de base qui me restaient au Cégep du Vieux-Montréal.
Ah, c'est que tu t'es ramassée au Cégep du Vieux.
Ben oui, mais pour finir mes cours de base.
Non, ben je dis ça un petit peu en riant parce que je suis allée là, moi aussi.
OK! Oui, c'était pour finir mes cours de base okay. Qui étaient éduc, anglais et épreuve uniforme de français.
OK. D'accord.
Que j'ai fait, j'avais presque pas d'aide en plus. J'étais pas très bonne en braille à ce moment-là. J'avais j'avais pas de dictionnaire, j'avais rien, en fait, à part mon ordinateur. Fait, j'ai fait des vraies formes de français.
OK, pas d'outils, beaucoup, ouais, pour te supporter
j'ai
un peu.
J'ai réussi à avoir quand même... mais j'ai passé mon épreuve, en fait.
Ben, c'est déjà bien.
Ah oui, je suis vraiment fière de moi, ce côté-là. Mais... C'est ça. Donc, après, on va finir le côté académique. Oui. Puis on va aller... parce qu'il y a beaucoup de choses dans les années, mais qui touchent à plusieurs aspects. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, on va finir le côté académique, puis on reviendra pour la suite.
Oui.
Alors, c'est ça. Alors, j'ai fini mon épreuve de français et je me suis dit... J'ai découvert la criminologie. Ça m'intéressait beaucoup. Mais... J'avais pas la critère pour rentrer en criminologie, étant donné que j'ai quitté le cégep et les travaux d'équipe au cégep, j'ai réussi toujours à me ramasser avec des personnes pas très travaillantes. Alors, ça fait en sorte que ma critère a baissé de beaucoup, beaucoup. Alors,
ouais,
j'ai pas pu rentrer en crimino.
Mm-hmm.
Alors, j'ai fait un certificat en victimologie, donc c'est intervention victime d'un criminel à l'Université de Montréal.
Okay.
Je me suis dit, je vais voir l'autre côté de la médaille. Et après ça, ben, je m'inscrirai en crimino. Comme ça, j'aurai les deux volets de la crimino et de la victimologie. Et, mais pour la criminologie, malheureusement, c'est compliqué. Parce que moi, je voulais pas juste faire de la recherche. Et c'est compliqué pour l'intervention étant non-voyant pour le volet sécurité.
Oui, effectivement.
Alors, c'est pour ça que j'ai dû changer à ce moment-là. J'ai changé pour de la littérature.
Ouais, là, OK. Là, c'est tout qu'un changement, ça, là.
Oui, mais parce que je voulais continuer la relation d'aide, mais j'avais peur d'avoir...
De toujours avoir, dans le fond, les mêmes genres de réponses, oui, puis les mêmes genres d'excuses, puis les mêmes genres de...
D'avoir des diplômes en poche, mais de pas me trouver de travail.
Puis c'est compréhensible, parce que tout le temps puis l'énergie que ça prend pour ramasser ces papiers-là,
mm-hmm.
Les cours, les travaux, tout ça, c'est un pensez-y bien.
C'est ça. Donc, je suis allée voir une conseillère en orientation. J'ai toujours aimé écrire, mais elle m'a dit, je vous vois en littérature. Et moi, je me suis dit, mais ça a l'air plus large comme domaine. Alors, je me suis dit, mais pourquoi pas? Mais ça aussi, en fait, j'ai toujours été bonne en littérature. J'avais des très bons résultats. Mais je trouvais qu'il me manquait justement le volet humain, ouais. Le volet concret. Je trouvais que c'était beaucoup abstrait et souvent les professeurs, c'est ça qui me reprochait un peu dans mes analyses littéraires, c'est que j'étais pas assez littéraire. J'étais un peu trop psychologique, sociologique. Alors, la psychologie des personnages, etc. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, mais ça, c'est la moitié de mon bac, c'est vraiment la majorité des analyses littéraires. Alors, si la première année, c'est comme ça, je me suis dit, c'est mieux que je change de programme, en fait. De domaine, même.
OK.
Et ce qui m'amène à la politique.
OK.
Mais avant ça.
Oui.
Avant ça, parce qu'on va sûrement me demander, ma perte de vision, si j'ai un deuil, etc.
Oui.
Oui, OK. En fait, je suis... en 2014, j'ai rencontré mon mari parce que je suis mariée.
Oui, c'est intéressant ça. T'es mariée?
Oui, je suis mariée depuis le 26 juillet 2014. Alors, on a fêté nos 4 ans de mariage. Mais on a fêté nos 4 ans de mariage
récemment.
Le 26 récemment. Alors, lui, en fait, je l'ai rencontré, en fait... C'est drôle à dire, mais je l'ai rencontré par Facebook.
OK, là, tu vas nous expliquer ça un peu, j'imagine.
Oui, je recommande pas ça à personne, mais bon.
OK.
On avait des amis communs et je me suis dit, il y a de l'air sympathique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à y parler et tout. Et moi, j'habitais toujours à Granby. Et lui, à Montréal, en fait, mon mari, c'est un immigrant.
OK.
Il vient du nord de l'Inde, donc il vient du Punjab en Inde. Il était venu ici pour être étudiant étranger. Alors, les premières fois que je l'ai vu, il est venu en autobus à Granby et il est venu dans mes parties de famille.
Oh, OK, ça fait que...
Alors, parce que ma mère, elle voulait pas qu'il me rencontre tout seul dans... Tu sais, je la connaissais pas, c'est par Facebook.
Faut toujours mieux être prudent, là.
Alors, il venait dans mes parties de famille.
Okay.
Parce que ma famille est très soudée et on fête tous les anniversaires. Alors, ça a bien été. Il n'y a même pas eu de malaise, rien. Ça a vraiment, vraiment bien été. Mais je me suis dit, ça passe ou ça casse. Et finalement, ça a passé. Et il est venu à un deuxième party de famille. Et après ça, on a commencé à se voir tout l'été. Et à un moment donné, on a eu un coup de tête du moment. Moi, j'appelais ça un coup de tête du moment, à ce moment-là. Mais on a décidé de se marier.
C'est ça, parce que ça s'est quand même fait assez vite, là.
Oui, ça c'est, j'étais vraiment vite.
La première rencontre, je suis sûre, tu dois te souvenir de la date, c'était quand? Tu le sais-tu?
Ben, c'était en mars 2014.
Et après, mariage en juillet 2014.
C'était un bon mercredi de juillet dans un centre commercial. On s'est dit, on se marie.
Tout de go,
ouais.
Ouais, mais 4 ans plus tard, ça fonctionne encore. Ça fait que ça.
Oui! Ça a pas été. Et 2 semaines après notre mariage, j'ai eu mes décommandes rétines.
Bon, ça, hein. Fallait encore qu'il y ait quelque chose de négatif par rapport aux yeux qui se.
Ouais. Mais. Parce que les gens, souvent, ils me disaient. Ah, mais à mon avis, t'as marié pour les papiers, etc.
Ah, mais ça, c'est comme. C'est les répliques un peu.
Oui! Mais moi, je me suis dit non. Pourquoi? Parce que il a été avec moi à toutes mes opérations. Il a passé des 10 heures à l'hôpital avec moi. Et honnêtement, s'il voulait vraiment les papiers, je pense pas qu'il aurait fait tout cet effort-là.
Il t'aurait pas soutenu comme ça, là, dans des épreuves.
Je pense qu'il aurait trouvé... il serait allé à la recherche de quelqu'un de moins compliqué. Alors, c'est pour ça que... Il a toujours été avec moi. Il m'a vraiment supporté parce que c'était dur pour lui aussi. Sa famille habite en Inde. Il n'y a personne ici à part moi et ma famille.
Mais il venait ici pour être étudiant étranger.
Mm-hmm.
Est-ce que c'était dans un but relativement court ou...
Oui, non. En fait, il était arrivé à Toronto.
Là, si je pose trop de questions personnelles,
mais non,
tu me le dis.
C'est pas grave.
OK.
Il est arrivé à Toronto. Ses parents, ils ont voulu qu'il commence sa vie au Canada, parce qu'il y avait de la famille au Canada.
OK.
Pour avoir un meilleur futur et tout, parce que en Inde, il allait à l'université. Pas à l'université, il était à l'école, à l'école secondaire ou. Ouais, c'est ça. Au niveau secondaire, ben, tu sais, il était avec ses amis, il fêtait, etc. Alors, ses parents, ils ont dit, faut faire un petit tour au Canada.
Ils ont cru que de venir au Canada, ça allait être bénéfique.
Etc. Alors, à un moment donné, il est allé à Toronto, puis il a décidé de suivre des amis au Québec. Il s'inscrit en support informatique.
OK.
Alors, c'était une école de fin de semaine. Donc, il allait à l'école à la fin de semaine. Alors, c'est à peu près ça. Et quand quand j'ai eu mes décommandes de rétine, il a dit que justement qu'il était quitté, lâché ses études, pour être avec moi 24 heures sur 24, parce qu'à cause de mes opérations, je devais avoir 2 semaines de convalescence, où que je pouvais presque pas bouger.
Oui, puis quand on se fait opérer aux yeux, là, faut pas trop forcer, c'est assez abstraignant.
Oui, 2 semaines, alors. Avec 5 opérations, ça fait 10 semaines en tout. Alors, il pouvait plus travailler. Finalement, il devait être avec moi tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision en 2015, en fait, de le parrainer.
OK.
Alors, mon père, je remercie toujours encore parce que c'est mon père qui s'est occupé des papiers de parrainage. Je peux vous dire que c'est un processus assez complexe. Et j'avais même peur que ça fonctionne pas à cause de mes problèmes visuels, parce que souvent, le parrainage, on doit assumer financièrement la personne.
Ouais, il y a
et moi, j'avais peur de ça, mais j'avais beaucoup de lettres de recommandation de mon médecin, de plusieurs personnes de l'entourage de mes parents qui ont écrit des lettres de recommandation, puis on avait un gros dossier, alors ça a fonctionné.
Ça a fonctionné.
Oui, je suis vraiment contente.
OK.
Alors, c'est ça pour... c'est un deuil à faire. J'ai appris... ma dernière opération est en novembre. J'ai fait ma convalescence chez mes parents. Alors, mes parents ont pu connaître mon mari mieux aussi en vivant chez eux. Et j'ai fait appel à l'Institut Nadal Librail pour le changement de ma situation. Parce que je devais maintenant apprendre le braille. Je devais... En fait, je pense que le deuil s'est bien fait parce que je suis toujours tout de suite allée à l'action. Alors, j'ai appelé, j'ai voulu avoir toutes les aides que je pouvais avoir. Il fallait que j'apprenne à...
Oh oui, c'était pas question de dire on verra ça plus tard, là. C'était
non,
de
c'est
voir...
ça, parce que je voulais aller à l'université, je voulais continuer mes études. J'étais arrêtée quand même durant mes opérations, donc j'ai tout l'automne 2014. Et ne faisant rien, parce que c'était comme, c'était vraiment déprimant, je faisais rien, j'avais pas accès à la SLQLA pour les livres adaptés d'AVRMQ. J'avais pas accès à ça, j'avais pas de dossier, donc j'avais rien pour
continuer à te divertir.
Et je connaissais uniquement mon mari à Montréal, je connaissais personne d'autre. Alors je faisais des cassettes de 48 morceaux pour enfants, j'essayais de m'occuper comme ça, mais c'était vraiment... Alors c'est pour ça que je me suis dit non, je peux pas rester comme ça, il faut que... Après mes opérations, faut que je continue l'école. Alors c'est pour ça que j'ai appris le braille en fait en 4 mois. Mais en 4 mois, j'ai appris le braille.
OK. Donc, tu dirais assez facilement quand même?
Oui. Oui, en fait, j'étais rendue autodidacte à la fin parce qu'après la moitié de l'alphabet, j'ai demandé à mon internat de donner les autres livres, puis j'ai appris les autres livres tout seul.
Ben, une fois qu'on a compris le principe.
Oui, c'est ça.
Hein, on peut continuer à.
Alors, je me suis pratiquée comme ça et c'est comme ça que j'ai pu apprendre le braille. Et à l'été 2015, j'ai pu également trouver un emploi.
Hey, wow, OK. Ça fait que ça consistait en quoi?
En fait, je suis toujours actuellement à cet emploi-là cet été.
Ah, d'accord.
Mais c'était Jeunesse Canada au travail et j'étais assistante animatrice, désolée, au Jardin botanique de Montréal à la Cour des sciences.
Ah oui!
Oui, vous connaissez?
Ben, j'ai entendu, j'ai connu des gens, d'autres personnes qui ont travaillé là. Mais je suis jamais allée, par contre, hein, ça, je m'en veux un peu, parce que...
Ça, vous devez. Oui. C'est vraiment, vraiment un bel endroit pour voir les plantes d'une autre façon, ouais. Mais, c'est vraiment le côté sensoriel, c'est pour sensibiliser les gens aux personnes en déficience visuelle. Alors, c'est un jardin où on peut toucher, sentir les plantes. On a même une section du goût. Alors, c'est vraiment, c'est ça, en fait. À cet emploi-là, je peux vous dire que c'est grâce à cet emploi-là que j'ai pu vraiment me bâtir une vie sociale. Donc, c'est pour ça que ça a été bénéfique de travailler à l'été 2015, parce que j'ai quand même été isolée tout un an à cause de mes opérations. Alors, le travail m'a vraiment aidée à m'intégrer un peu plus à la société montréalaise.
OK. Et là, c'était quel genre de personnes? Est-ce que c'était d'autres personnes avec des handicaps visuels ou aussi?
Oui, ben en fait, j'ai fait la connaissance de Catherine Hood.
Oui, Catherine, oui. Mm-hmm.
Donc, j'ai fait sa connaissance. Elle était également nouvellement assistante animatrice à cet été-là.
OK.
Alors, j'ai fait la connaissance d'elle et j'ai fait la connaissance des autres animateurs aussi. Alors... Donc, c'est autant du niveau, côté, dans le monde de la déficience visuelle, autant dans le monde en général.
C'est ça, mais là, il y a eu comme quand même un lien d'appartenance, j'imagine, avec d'autres personnes qui vivent des choses comme toi.
Oui, mais j'avais déjà des connaissances de personnes ayant une déficience visuelle parce que j'étais semi-voyante. Et j'étais avec l'ACPEV, donc l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels. Et mes parents, ils se sont inscrits vraiment à mon tout jeune âge à cette association-là. Et ils sont encore à cette association-là avec un groupe d'entraide entre parents, en fait. Alors, ils ont toutes leurs amis, c'est des parents de cette association-là.
Okay.
Alors, j'ai connu des personnes de mon entourage.
À travers?
Oui.
OK, puis tes parents se sont fait eux aussi des amis puis des connaissances.
Oui, c'est ça.
OK.
Donc, c'est une association, vraiment, ça l'aide beaucoup. Ça l'aide beaucoup, cette association-là, pour les parents... les parents entre parents, parce que souvent, il y a des conférences pour les parents lors des journées d'échange. Puis les enfants, en même temps, ben, eux, pendant ce temps-là, font des activités avec les animateurs de la Fondation des évêques du Québec. Alors, donc c'est pour ça que ça m'a, j'ai eu des connaissances. Et j'ai pu également animer des ateliers, des conférences à l'ACPEV en 2015, après ma perte de vision.
Mais là, animer des conférences, quand même, ça demande beaucoup de... Faut pas être trop gêné, faut pas être trop...
Non, j'ai été en fait panéliste pour le sujet d'inclusion scolaire.
OK.
Et j'ai aussi animé un atelier dans une... Je sais pas comment on appelait ça, c'était un atelier. Plusieurs personnes faisaient des petits ateliers, les parents se promenaient dans les kiosques.
OK.
Alors j'avais un petit kiosque, donc j'ai eu... je me suis impliquée un peu comme ça. Où je voulais emmener avec tout ça?
Je sais pas, mais si tu le sais plus, moi, je vais t'amener ailleurs. Avant qu'on fasse la pause, parce que le temps passe extrêmement vite. Ça fait mais déjà oui, presque 45 minutes. Les voyages, parce que tu l'as mentionné,
mm-hmm.
mais je pense que tu en as quand même fait, je sais pas combien, quelques-uns?
Oui, j'en ai fait quelques-uns. Mon premier voyage, ça a été au Costa Rica. Et ma mère a toujours voyagé, soit dit en passant, elle a vraiment beaucoup voyagé, et elle a voyagé en sac à dos. Alors, à l'âge de 7 ans, elle nous a emmené, moi et mon frère aîné, qui est 2 ans plus vieux que moi, elle nous a emmené au Costa Rica pendant 1 mois, en sac à dos.
Donc ça veut dire, on part là, puis on sait pas trop...
On sait pas où qu'on couche, on sait pas où qu'on mange, on sait pas où qu'on va.
Puis on voyage léger, là.
Parce c'est que... ça.
Bon. OK.
Alors, elle en est, c'est un enfant de 7 et 9 ans.
C'est sûr que c'est quand c'est même...
Jeune. C'est jeune, mais...
Ça doit être très formateur, j'imagine.
Oui, oui, j'ai vraiment aimé ça. Alors, j'ai poursuivi mes voyages. En fait, en 5e secondaire, j'ai fait 2 voyages humanitaires. Un au Guatemala et un en Équateur, 2 semaines. Et j'ai vraiment aimé ça aussi. Ça m'a beaucoup donné le goût aussi de m'impliquer, parce que mes bénévoles m'ont aussi donné le goût de m'impliquer socialement dans la société. Et sinon, j'ai fait aussi des voyages un peu plus d'aisance, comme à l'île Aruba, avec mes parents. Je suis allée à Aruba pendant 1 mois, mais on s'avait loué un condo et c'était plus un voyage d'aisance.
Et c'est sur où la ça? Plage.
C'est dans les îles... c'est proche de Curaçao, Bonaire, c'est dans les îles hollandaises.
OK.
Alors,
parce que moi, c'est pas avec mes connaissances géographiques, quand tu crois que j'aurais su c'était où.
Mais c'est vraiment une très belle île.
OK, d'accord.
Et sinon, je planifie d'aller en Inde, justement, en 2020, voir mes beaux-parents.
OK.
Et on planifie d'aller l'été... C'est ça.
Ben, c'est des beaux projets. Et puis, nous, je pense qu'on va faire la pause. Puis mm-hmm. après la pause, je pense que, à moins que j'aurais oublié encore plein d'affaires, mais je pense qu'on va peut-être se lancer en politique.
Ben oui, pourquoi pas? Faire un pas en politique?
Faire un pas, ben oui. Moi, ça va être un pas. Toi, c'est un peu plus qu'un pas. Et puis, ben, c'est ça, tu nous expliqueras un peu ton intérêt, puis aussi ton ce qui t'a donné le goût d'aller plus loin, parce que, comme je le disais, je pense que je le disais hors micro, c'est pas non plus, c'est pas fréquent d'avoir des personnes non-voyantes qui sont candidats dans des partis politiques. Donc, on va faire la pause, et puis on vous revient tout de suite avec notre invité, je vous le rappelle, qui est Camille Saint-Laurent.
À notre prochaine émission. Certaines personnes voient déjà comme étant la fin du monde d'être non-voyant. Imaginez, en plus de ces troubles visuels, notre invité de la semaine prochaine est atteint de bien d'autres problèmes de santé importants et pourtant, il se garde actif physiquement et intellectuellement. Olivier Danjou à notre rendez-vous du 5 octobre.
Nous sommes de retour avec notre invité qui est Camille Saint-Laurent. Et juste avant la pause, on parlait qu'on allait discuter politique un peu. Et on va finir aussi avec quelque chose que je trouve très important parce que pendant la pause, Camille a dit « J'ai pas eu le temps de parler de mes passions. » J'ai dit « C'est sûr et certain qu'on peut pas finir un Connaissez-vous sans parler des passions de notre invité. Et je lui ai dit aussi que j'allais la laisser gérer le temps pour la fin, dans le sens de proportionnellement politique et passion. Je lui laisse gérer ça et je lui redonne d'ailleurs la parole. Rebonjour Camille.
Bonjour Martin.
Donc, une fille passionnée, hein, parce que t'as dit « je n'ai plusieurs passions ». Ça fait que je sais pas comment tu veux y aller, de façon chronologique ou par ordre d'importance ou...
Mais est-ce qu'on parle de la politique avant?
Oui!
Non, mais c'est correct, mais peut-être, étant donné qu'on...
Ben, la politique fait partie de tes passions.
Oui, c'est ça, la politique fait partie de mes passions.
Rattrape-toi, Martin.
j'ai différents sphères dans mes passions, différents volets, différents domaines.
OK.
Ben, c'est ça. Alors, oui, la politique, en fait, c'est à partir de l'âge de 12 ans. En sixième année.
Quand même, 12 ans, c'est jeune.
Ouais, je sais. Mais il y a quand même des simulations parlementaires pour les écoliers au primaire. Ça commence quand même.
Mais fallait s'y intéresser.
Oui. OK. Ça. Alors, justement, moi, en géographie puis en histoire, j'étais très bonne. Et j'avais eu 100% à mon examen de démocratie, sur la démocratie. Et j'avais dit à ma mère, je m'en rappelle, j'ai montré mon examen, j'ai dit « Maman, plus tard, je vais être politicienne. » Et wow. Elle m'a répondu « Commence par finir ton primaire.
» Ouais.
Et on s'en reparlera.
C'était quand même une bonne réponse. Hein?
Mais c'est sûr qu'à 12 ans, hein, mais bon. Alors, c'est ça.
Vaut mieux avoir trop d'idées que pas assez. Hein?
Je suis une fille très ambitieuse. J'avais beaucoup d'ambition, j'en ai toujours. Alors, au secondaire, j'ai toujours aimé mes cours d'histoire, de géographie, de monde contemporain. Je sais qu'en secondaire 5, on avait le choix de choisir soit chimie physique ou soit chimie et un autre cours d'histoire.
OK. Parce
qu'on avait monde contemporain en 5e secondaire. Et moi, voulant aller dans les relations humaines et dans les sciences humaines, j'ai choisi le côté histoire.
Ah ouais, je m'en doutais.
Hein? Ouais, uh-huh. C'est ça. Et durant le cégep, j'ai découvert qu'on pouvait faire des simulations parlementaires. Alors, j'ai fait le forum étudiant au niveau collégial. J'étais vice-présidente de l'Assemblée à ce moment-là. Alors, j'ai vraiment aimé mon expérience au Salon Bleu et à l'Assemblée nationale. J'ai fait également le Parlement jeunesse du Québec, qui est de niveau collégial universitaire. J'étais députée à ce moment-là. Alors, c'était hiver 2013, début janvier 2014.
OK.
Donc, c'était à Québec. Alors, c'est là que ma passion pour la politique, pour la société, tout ce qui a trait aux enjeux reliés à la société, au monde dans lequel on vit, que ça m'est venu, en fait.
OK.
Et l'automne passé, ça fait quand même pas longtemps, mais l'automne passé, je me suis dit, ben là, c'est peut-être le temps de m'impliquer. T'sais, je m'impliquais dans l'association étudiante de la littérature française à l'Université de Montréal. J'étais représentante de première année du premier cycle, en fait. Alors, je me suis dit, mais j'aimerais ça m'impliquer plus au niveau dans la société, là, en général. Et j'ai toujours voté pour Québec solidaire dès mes 18 ans. Et je me suis dit, ben pourquoi pas? Donc, durant l'été, j'avais écrit un courriel, mais j'avais pas eu de... Alors, il y a eu un problème informatique et j'ai pas eu de nouvelles à mon courriel.
OK, pas de suivi.
Non, pas de suivi. Jusqu'à temps qu'en automne, je reçois un texto pour me demander si je voulais toujours m'impliquer. Alors, je me suis rappelée que j'avais écrit justement. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Alors, j'ai commencé à m'impliquer. Je suis toujours porte-parole femme. De la circonscription de Gouin, en fait, à laquelle j'habite, d'association locale de Québec solidaire. Et je suis aussi impliquée au sous-comité qui va bientôt devenir un collectif sur l'accessibilité universelle de Québec solidaire. Je suis secrétaire.
OK.
Et alors, c'est pour ça que parce que pour moi, c'est important de m'impliquer. Étant non-voyante, je me suis dit, je me suis toujours dit, si on veut que les choses changent, il faut s'impliquer pour que ça change. Je me suis dit, si je reste dans mon salon, puis que je me dis, ah ben, c'est pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas comme ça, nanana, puis que je chiale un peu sur les problématiques et tout, mais que je fais rien, je me suis dit, ça n'avancera pas.
Mm-hmm.
Alors, c'est pour ça que je décide de m'impliquer. Et suite au congrès de Québec solidaire, en l'automne passé.
Ouais, 2017.
Ouais, c'est ça, 2017. Mm-hmm. Excusez-moi, les dates. Mais les gens me disaient, mais pourquoi tu te présentes pas comme candidat? Là, je me suis dit, OK, est-ce que vous êtes sérieux? Parce que pour moi, être candidat, ça prend de l'expérience. Pour moi, c'était quelque chose de gros. Je sais pas si tu sais, Martin.
Oui, tu pensais pas que tu pouvais.
Ben oui, je me suis dit.
Correspondre au profil.
Oui, oui, d'accord. Alors, j'ai réfléchi durant les vacances de Noël. Et je me suis dit, ben, finalement, pourquoi pas? Je me suis dit, c'est pas bête, finalement. Je me suis dit, ça peut être une expérience. Ça marche ou pas? Ça peut être une expérience de vie. Alors.
Tu t'es lancé.
Bien sûr. C'est ça que j'ai fait. Je me suis lâchée, je me suis dit, Camille, t'es fonceuse dans la vie. Normalement, t'as pas de barrière. Alors, prends le vent où ça te mène, puis lance-toi. Alors, c'est ça que j'ai fait. Et, ben là, il faut que je sache, c'est où que je me présente. Parce que, où j'habite, dans le coin, ben, il y a mon cher collègue, Gabriel Nadeau-Dubois.
Oui.
Oui. Alors, je me suis dit, ben, il faut que je trouve un endroit où me présenter. Et j'ai choisi, en fait, Marguerite Bourgeois.
Parce que tu peux pas te présenter contre Gabriel,
quand même. Ouais. C'est ça.
Est-ce que tu l'as déjà rencontré?
Oui.
Oui.
Bien sûr. Okay. Mais, il venait à la société. Oh, ben oui, j'ai pu y parler, le rencontrer, il est très sympathique. Vraiment, c'est une très bonne personne. Ben, Gabriel, Amir, Manon, c'est vraiment de très bonnes personnes.
Mais moi, j'ouvre une parenthèse concernant Gabriel. Moi, j'ai lu son livre, qu'il a lu lui-même à vue et voix. Ça fait que ça m'a conquis, là, je pourrais dire.
Ah oui? Je vais faire un mea culpa, malgré que sûrement qu'il va voir l'entrevue puis qu'il m'avait demandé de lire son livre, que je l'ai pas encore fait.
Ben là, en tout cas, moi, je t'invite à le faire.
Okay.
Moi, là, je me mets de la partie.
Parfait. Ben bon. Oui, c'est ça. Je vais le louer sans problème.
Oui, oui. Elle est lue par l'auteur, là. T'sais.
En plus.
Ouais, ouais, ouais.
Faut pas que je le manque.
Non.
Mais c'est ça. Mais oui. Alors, je vais continuer par rapport à la circonscription. Donc, Marguerite Bourgeois, c'est à La Salle, dans le sud-ouest de Montréal. Pourquoi La Salle? Pourquoi Marguerite Bourgeois? Ben, je suis souvent allée à La Salle parce que mon mari, en fait, je vous ai dit qu'il vient de l'Inde, du Punjab-Indien, et en fait, sa religion, c'est le sikhisme. Donc, les sikhs, en fait, c'est des personnes, les hommes qui portent les turbans.
OK.
En tout cas, c'est une religion monothéiste. Je ne veux pas trop m'étaler là-dedans, mais j'allais souvent au temple sikh qui s'appelle le Gurdwara, qui est vraiment splendide à La Salle. Ouais, splendide visuellement, c'est plate pour ceux qui ne voient pas comme moi, parce que j'ai eu la chance d'y aller en tant que voyante. Ça ressemble un peu au palais d'Aladin, en tout cas.
OK.
Un peu comme le Taj Mahal. Ouais, en tout cas. C'est gros, c'est grandiose, et je suis souvent allée, alors je me suis dit, ben, c'est une communauté que je connais, alors c'est pour ça aussi que j'ai... Mais pas simplement pour ça, mais c'est un lieu aussi qui me fait penser à ma ville natale qui est Grimby. C'est plus proche du fleuve. Grimby, il y a quand même des points d'eau. Et c'est un peu éloigné de la ville, donc je me sentais un peu plus chez moi quand j'allais à La Salle.
OK.
Et c'est pas juste La Salle, Marguerite Bourgeois, c'est aussi l'île des Sœurs et l'île des Hurons. Mais bon, c'est majoritairement La Salle. Alors, c'est pour ça que là, je me suis dit, bon, là, ça y est, j'ai la circonscription. Alors, je me suis inscrite comme candidate. J'ai fait l'investiture. Il y a personne qui se sont présentés d'autres personnes de quelques secondaires sont présentées contre moi. J'ai été investie, je suis vraiment contente.
Vraiment, c'est, ben, tout moi, à fait, c'est ça. Ben, oui.
Même s'il y a personne qui se présentait contre moi, donc que j'avais beaucoup de chance quand même d'être choisie par les membres, parce que si les membres de quelques secondaires veulent voter Québec solidaire, c'est bon d'avoir un candidat. Alors, mais pour moi, c'est un accomplissement déjà en soi. Mes parents étaient là, ma soirée d'investiture, et vraiment, j'avais mon doigt sur ma feuille braille, puis à un moment donné, j'étais tellement dans mon discours que je voyais mon doigt se promener, mais je disais rien. Alors, j'ai vraiment... c'était vraiment un très beau moment. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas d'association locale dans Marguerite-Bourgeois, donc c'est beaucoup de circonscriptions. Je ne veux pas trop aller là-dedans, mais c'est beaucoup de circonscriptions sans association. Et c'est un comité électoral régional de Montréal qui s'occupe de ça. Alors, je dois construire mon équipe et j'ai des personnes qui m'aident et tout. Et c'est sûr qu'il y a des défis, en fait, que je peux rencontrer, parce qu'étant non-voyante, je ne veux pas spontanément me dire « OK, aujourd'hui, je m'en vais faire du porte-à-porte à la salle. »
Ouais, pas comme ça, toute seule.
Ou je suis allée au festival de la soupe à la salle avec mon ami, ben, mon attaché politique. Je ne peux pas me dire « Je m'en vais tout seul au festival de la soupe. »
Non.
Me perdre dans le parc des Rapides, c'est pas une bonne idée.
Non, effectivement.
Alors, c'est pour ça que c'est quelques défis que je rencontre, en fait. Des défis, par exemple, beaucoup de logistique. Quand il y a des événements puis que les candidats devaient aller sur scène, mais il y avait de la logistique parce qu'il fallait que quelqu'un m'accompagne. Alors, mais je trouve que c'est une force, en fait, que je sois non-voyante, parce que ça sensibilise aussi les membres du parti puis les membres en général aux personnes en situation de handicap. Parce que Québec solidaire, c'est un parti qui se veut inclusif et accessible universellement.
Oui, mais là, c'est une belle occasion de le prouver aussi.
C'est ça. Moi, j'ai non-voyant, puis il y a d'autres candidats qui ont une déficience visuelle ou qui ont d'autres qui sont en situation d'handicap, mais qui ont d'autres handicaps. Alors, je trouve ça bien que les candidats eux-mêmes représentent la diversité.
Bien, tout à fait.
Alors, c'est un défi pour moi, mais c'est un défi aussi pour Québec solidaire.
Effectivement, je pense que c'est un...
Et pour la société en général.
C'est une belle ouverture de tout le monde, je crois.
Oui, alors c'est vraiment... durant l'été, ça a été un peu tranquille parce que je travaille au Jardin botanique.
Oui.
Toujours, mais maintenant, je suis rendue animatrice.
Okay.
Je suis assistante, je suis rendue animatrice.
Okay.
Et cet été, j'ai pas juste fait la cour d'essence, seulement fait la cour d'essence. J'ai également fait une animation du botaniste Francis Salé, une animation de dessin. Imagine-toi donc.
Mais quand même!
Alors, je devais montrer aux visiteurs comment faire des dessins scientifiques de plantes. Et je suis non-voyante.
Wow! Et comment ça a été, comment t'as senti la perception des gens par rapport à ça? Ils ont dû trouver ça quand même spécial.
J'ai expliqué les méthodes. Je pouvais pas vraiment dire si c'était bon ou pas, mais je dessinais sur le tableau. Ça a vraiment bien été.
OK.
Vraiment, ça a bien été. Et les visiteurs, j'ai de la misère aujourd'hui. Ça les a pas dérangés.
Mais ça a dû les impressionner un peu quand même.
Ben oui, quand même. Alors, c'est ça. Alors, c'est ça. Ça a été un peu tranquille cet été, mais je suis toujours présente dans ma circonscription. Je suis beaucoup présente aussi dans les réseaux sociaux, Facebook. Et je me dis, je fais le mieux que je peux. Je fais le mieux que je peux. Mon but, en fait, c'est vraiment de faire valoir mes idées, mes convictions, mes valeurs de Québec solidaire, puis c'est là que j'ai profondément. Et puis pour moi, c'est vraiment d'emmener quelque chose à la société, d'emmener quelque chose, mon petit grain de sel à la société pour avoir un meilleur mieux vivre ensemble, en fait.
C'est une très belle mentalité, une très belle philosophie. Et là, quand il te reste du temps pour t'occuper de toi un peu, tu me parlais de tes autres passions.
Oui. Ben c'est ça, je vois beaucoup ma famille.
Oui, vous êtes une famille. Avec mon mari, c'est serré,
quand
ouais.
il travaille pas, on fait beaucoup de trucs ensemble. Mais sinon, j'aime faire du casse-tête. Je fais du casse-tête de 3000 morceaux.
OK. Et là, comment tu fais ça?
C'est pas
je sais que la question est bête, là, mais...
C'est très organisé, mon affaire, je peux vous dire ça. En fait, je sépare les morceaux de contour. Je sépare... Moi, je joue avec les formes. Alors, les coins, je les mets dans un... Je les mets à part. Et je sépare toutes les formes ensemble. Donc, je vais prendre tous les contours. Je les mets dans des pots de yogourt vides. Et toutes les formes qui se ressemblent, je les mets dans différents pots de yogourt vides. Et j'y vais avec les formes.
OK.
Alors...
Mais là, 3000 morceaux, là, tu peux chercher longtemps. Là.
Ouais, mais selon... Parce que je prends des casse-têtes réguliers, donc qui a un enfoncement puis qui a comme une petite pinouche qui ressort, là.
OK.
Tu sais, les casse-têtes réguliers, je sais pas si on...
Ben, conventionnel.
Ouais, conventionnel.
OK.
Alors, je me suis dit, ben, s'il y a un enfoncement, c'est que lui, il doit avoir une pinouche, puis vice-versa.
Mm-hmm.
Alors, ben, c'est comme ça que je sais quel genre de forme qui doit aller là. Et chaque forme a sa place.
Oui.
On sait sûrement pas, mais chaque forme a sa place. Moi, j'y vais vraiment. Quand je mets une forme, je mets mon doigt de chaque côté pour voir si c'est égal de chaque côté.
Ça, alors, si jamais ça se ressemble, mais que c'est pas ça,
mm-hmm.
théoriquement...
Si je suis pas sûre, je le mets de côté, puis je continue. Puis je vais sûrement en trouver un qui va
aller...
mieux fonctionner.
Mm-hmm.
Alors, pendant que je fais ça, ben j'écoute de la musique, j'écoute des livres audio... J'écoute des vidéos sur YouTube pendant que je fais... J'étudie aussi.
OK.
Parce que moi, j'ai toujours besoin que mes mains soient actives pour me garder ma concentration quand j'étudie.
OK.
Alors, ben je fais du casse-tête.
Wow! Ben, en tout cas, je sais que t'es ma première invitée qui me dit qu'il fait du casse-tête ne voyant pas, là.
Je fais du casse-tête. Je fais aussi du tissage, mais on appelle ça des bracelets brésiliens, des bracelets d'amitié. J'avais commencé à faire ça quand j'étais voyante. Et quand j'étais non-voyante, ben, j'essayais de continuer, mais de pas me limiter au bracelet. Alors, je fais des sacs à main.
T'as comme élargi ton...
Ouais. Alors ça, je fais ça aussi quand j'étudie ou dans le métro, dans le transport adapté. Je l'emmène tout le temps avec moi.
Okay.
Alors, je peux faire ça tout le temps partout. Et donc, ça me tient occupée. Il y a ça. Il y a la danse aussi. J'aime beaucoup danser. J'ai dansé depuis mon tout jeune âge. J'ai touché à beaucoup de sortes de danse. Dont le Bollywood, la danse indienne, parce qu'une de mes plus grandes passions, c'est l'Inde. Et c'était vraiment pas prévu que j'aille un mari indien en passant.
Un hasard.
Un hasard de la vie. Mais non, l'Inde, c'est vraiment ma passion. Je danse le Bollywood, je chante aussi, je suis chanteuse.
Oui, puis alors, tu disais, t'avais participé aux auditions de La Voix.
J'ai fait des pré-auditions.
Les pré-auditions.
Oui, j'avais fait... une petite chanson. J'avais décidé ça la veille au soir.
OK. C'était spontané. Hein,
oui, c'est quoi. Ça. C'était spontané.
OK.
Et, mais c'est ça. Alors, le chant, mais j'aime beaucoup chanter de la musique indienne. Justement, les chansons indiennes. Hein, on reste... J'aime beaucoup cuisiner.
Ah, OK.
Je cuisine pas juste la nourriture indienne, mais c'est, je cuisine d'autres
choses. J'osais pas poser la question.
Oui, j'utilise même le... l'autocuiseur pour faire mes légumineuses. Je peux vous dire que la première fois, Martin, que ça m'est arrivé dans l'autocuiseur, puis ça fait pshh comme ça, je me suis cachée. Et j'ai compté un, parce qu'il fallait que je compte le nombre de pshh. Ben, c'est quand même auditif.
Ouais.
Mais non, ça s'est très bien passé, parce que comme je dis, moi, j'ai pas de limite, alors, c'est ça. Alors, c'est mes passions. L'écriture aussi, j'aime écrire, j'aime lire, j'aime la mode, j'aime magasiner.
Donc, peut-être comme une question qui englobe tout ça, je crois que t'as pas beaucoup de temps pour t'ennuyer.
Non, j'ai pas le temps beaucoup de m'ennuyer, malgré que, tu sais, souvent, t'es sûr, quand je suis seule à la maison, je fais beaucoup de choses... J'ai quand même de la vie sociale, j'ai des amis que je vois de temps en temps, quand j'ai le temps. Mais non, j'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer, mais moi je trouve ça important de briser justement l'isolement, la solitude en s'occupant. Parce que c'est ça la clé, de s'occuper. de trouver des passions, de trouver des intérêts, puis de s'occuper, de s'impliquer aussi. Mais c'est pas en politique, mais de s'impliquer en général.
Oui, oui, ça peut être...
Ça l'aide aussi pour se créer un réseau, parce que quand on est non-voyant, c'est vraiment dommage à dire, mais en situation de handicap, on a déjà comme un petit quelque chose. Donc, en s'impliquant, puis en faisant notre petit grain de sel à la société, ben ça construit un réseau de contacts, ça fait comprendre aux gens qu'on est là, parce que les personnes en situation de handicap, je sais qu'ils veulent, parce que j'ai parlé à beaucoup de personnes, ils veulent s'impliquer, ils veulent faire quelque chose, mais il faut juste que je ramène à l'accessibilité universelle, mais il faut que ça soit accessible.
Oui, c'est
ça. Souvent, c'est ça qui met malheureusement des barrières.
Mais je crois que tu as réussi à en faire tomber beaucoup de barrières dans ta vie.
Oui.
Et ce que je souhaite, c'est que tu en fasses tomber d'autres parmi mes auditeurs qui vont t'avoir écouté.
Ben, je souhaite aussi.
Et je te souhaite la meilleure des chances dans tes projets.
Ben merci.
Et puis je vous souhaite à vous tous à la maison de vous trouver des passions, des occupations, de faire fructifier votre temps si vous en avez beaucoup.
The sky is the limit.
Exactement. Et sur cette belle phrase, on va terminer l'émission. Moi, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous invite à continuer à nous écrire, à communiquer avec nous faire part de vos commentaires, vos suggestions. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous.
Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine! À la prochaine.